BFM Business présente Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, il est 19h02, on est un petit peu de retard à cause d'Emmanuel Le Chypre qui nous a gratifié de quelques métaphores animalières, c'est comme ça. On est ensemble en tout cas jusqu'à 20h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
Tech & Co 2024, c'est donc parti, vous savez que BFM Business va être sur le pont pendant plusieurs jours. Tech & Co dans un instant, bien sûr, à 20h avec François Sorel. Nous aussi, on va y aller dans un instant, puis on va en parler avec nos experts, bien sûr.
Beaucoup de sujets à voir avec eux. En France, ça y est, on commence à savoir à quoi va ressembler la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et donc, ça se confirme, eh bien, les conditions d'indemnisation vont se durcir. Et puis, on parlera aussi de cette nouvelle piste du gouvernement pour faire des économies l'an prochain, l'année blanche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait renoncer à l'indexation des retraites et des prestations sociales sur l'inflation. Et ça pourrait rapporter combien, Guillaume? Eh bien, 20 milliards d'euros.
Ça tombe bien. C'est ce qu'on cherche pour l'an prochain, absolument. Qui sera avec nous pour en parler? Le communicant Cyril Lachèvre va bien sûr revenir. L'entrepreneur Léonidas Kalogiropoulos et Jonas Haddad de la Fondation Concord. Ça nous promet un beau débat, tout ça, évidemment.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc Vivatech édition 2024, ça y est, c'est parti du côté de la porte de Versailles à Paris. Bonsoir Nathan Cocampo, vous êtes sur place. Il y a déjà eu quelques prises de parole et quelques démos fort intéressantes, Nathan.
Bonsoir Guillaume. Oui, on a surtout entendu deux lettres ici à Vivatech. IA pour intelligence artificielle, vous le savez bien. Exemple, chez Airbus, j'ai pu monter dans un camion ultra connecté avec à l'intérieur un vrai cockpit d'A350, un simulateur d'avion finalement, mais pas n'importe quel avion, un avion autonome. Alors rassurez-vous, il y aura toujours un pilote à l'intérieur, mais l'idée derrière ce test, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, le maximum de données possibles pour détecter les obstacles sur la route, pour imaginer finalement l'avion de demain, un avion où les algorithmes aident le pilote à prendre les bonnes décisions, le meilleur itinéraire possible, la meilleure arrivée possible à l'aéroport pour fluidifier au mieux le trafic. Je vous parle d'Airbus, mais toutes les stars de l'IA sont bien présentes au salon cette année. Je pense à l'informaticien français Yann Lequin. Je pense aussi au responsable d'OpenAI et l'intervention que tout le monde attend ici. Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, va échanger avec le public en visio conférence demain et il sera évidemment question là aussi d'intelligence artificielle à suivre sur notre antenne. Plus largement, l'objectif cette année, c'est de dépasser le record de l'année dernière, le record absolu de 150 000 visiteurs. Alors avec plus de 2500 startups présentes ici, 2800 exposants dont des géants comme Microsoft, Google, Amazon, cette édition 2024 s'annonce vraiment comme une très très belle édition. La foule a en tout cas, comme vous le voyez, bien répondu présent aujourd'hui.
Merci beaucoup Nathan Cocampo, donc en direct de la porte de Versailles pour BFM Business. Je vous disais, il y a beaucoup de beau monde cette année à Vivatech. L'ancien patron de Google, Eric Schmidt, Arthur Mensch, le fondateur de Mistral, la patronne d'Orange, Christelle Hennemann, puis il y a Bernard Arnault, le patron d'LVMH. Bernard Arnault, qui est en marge de cet événement, vient de renouveler son partenariat avec le géant chinois Alibaba. Accord qui va lui permettre de pénétrer encore plus le marché chinois. Pauline Tatevin.
Ce matin, côté français et côté chinois, on se satisfait de renouveler pour 5 ans ce partenariat dont on ne divulgue pas les termes financiers. Mais les enjeux sont considérables. La Chine est un marché très important. On a besoin d'y travailler avec les meilleurs, rappelle le responsable tech de LVMH. Son homologue chez Alibaba se félicite de cette opportunité. Depuis le début de leur collaboration en 2019, il a été question de data et de cloud, d'intelligence artificielle. Ces derniers mois, l'IA générative est au cœur, en particulier pour les activités de LVMH en Chine. Il y opère 1400 boutiques et y compte 28 000 salariés. Grâce à ce partenariat, il fournit à ses vendeurs des applications pour personnaliser de plus en plus leur offre à leur clientèle. L'IA aide aussi ses salariés en Chine au quotidien pour effectuer des présentations ou des résumés de documents. Ce que LVMH propose à ses équipes ailleurs via l'intelligence artificielle qu'il a créée à partir de ChatGPT, mais pas question bien sûr d'importer en Chine une IA américaine. Le choix d'Alibaba sur place, c'est donc imposé à LVMH.
Voilà pour LVMH et voilà pour ce Vivatech donc, dont on parle bien sûr dans un instant avec nos experts. Puis à partir de 20h, bien sûr, Tech & Co qui sera sur place avec François Sorel et ses équipes, bien sûr. 19h06, la Chine, justement. Il semblerait qu'elle soit sur le point de préparer un mauvais coup à l'industrie automobile européenne. Vous savez que dans 2 semaines, Bruxelles pourrait dégainer des droits de douane sur les véhicules électriques en provenance de Chine. Et bien apparemment, ça y est, Pékin est en train de préparer la riposte, comme on dit, Laura Cambeau.
Dernière menace en date diffusée via un quotidien pro-Pékin, le Global Times. Dans un article, un dirigeant du Centre chinois de recherche automobile lance un appel. Il faut monter les droits de douane pour les voitures importées. Sur les grosses cylindrées, les taxes à l'import pourraient passer de 15 à 25%. Une hausse pour réduire les émissions de carbone selon la version officielle. En réalité, c'est une allusion directe aux berlines allemandes. Médias, lobbies, réseaux sociaux, Pékin utilise tous les moyens de pression et vise des secteurs symbolique, souvent sensible politiquement, comme l'aéronautique ou le vin. En janvier déjà, la Chine avait annoncé une enquête sur les subventions aux eaux de vie avec dans le viseur le cognac. Des tensions commerciales qui s'exacerbent à l'approche du 5 juin, date de la décision européenne et l'adoption probable de taxes douanières relevées pour les véhicules électriques chinois. La semaine dernière, c'est Joe Biden qui a annoncé multiplier par 4 les droits de douane pour les marques chinoises, BYD, MG Motor ou encore Leapmotor.
Laura Cambeau, et puisqu'on parle auto, Renault a confirmé aujourd'hui qu'il ne discutait plus avec Volkswagen d'une éventuelle collaboration pour bâtir ensemble, vous savez, la future Twingo électrique. C'est le directeur général de Renault, Luca De Meo, qui l'a confirmé en marge de Vivatech, précisément. 19h08, on vient en France avec donc cette fameuse réforme de l'assurance chômage dont on connaît désormais quelques grandes lignes, parce que ça y est, la ministre du Travail a commencé à en parler aux partenaires sociaux. Caroline Morisseau.
Le gouvernement va bel et bien durcir les conditions d'ouverture des droits. Il faudra désormais avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers, non plus 6 sur les 24 derniers pour être indemnisé. Autre mesure, durcir encore un peu plus la modulation des règles en fonction de la conjoncture. La durée d'indemnisation a déjà été réduite de 25% en février dernier, dans la mesure où le chômage était sous les 9%. Une baisse plus importante de 40% cette fois pourrait intervenir si le chômage tombe sous les 6,5%. En ce qui concerne les seniors, les bornes d'âge qui permettent de bénéficier d'une durée d'indemnisation plus longue vont être décalées de 2 ans. Concrètement, il faudra donc avoir 57 ans et non plus 55 pour bénéficier de 27 mois d'indemnisation. Enfin, les employeurs ne seront pas épargnés. Le bonus-malus, qui consiste à alourdir les cotisations des entreprises qui abusent des contrats courts, va être élargi à davantage de secteurs. La ministre du Travail assure que tout cela peut encore bouger. L'objectif, en revanche, est clair. Le gouvernement compte sur ces mesures pour créer 90 000 emplois et vise 3,5 milliards d'euros d'économies, voire un peu plus 6,5 milliards si le chômage tombait sous les 6,5%.
Voilà pour cette réforme de l'assurance chômage. Ça aussi, bien sûr, on en parlera avec nos experts tout à l'heure à 19h30. Et puis alors, figurez-vous que se tenait tout à l'heure l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société Générale. Et évidemment est venue sur le tapis la question de savoir ce que son directeur général penserait, comme l'avait évoqué la semaine dernière Emmanuel Macron, vous savez, d'un éventuel rapprochement entre la SocGen et un autre acteur européen, en l'occurrence l'Espagnol Santander. Slavomir Krupa, le DG de la SocGen, a été catégorique. Lui pense que ça ne peut pas se faire.
Le premier commentaire, c'est que elles sont aujourd'hui en Europe extraordinairement improbables. Il y a des surcharges en capital importantes qui sont liées à la taille des établissements bancaires. Pour des raisons industrielles, extraire des synergies dans le cadre d'une opération bancaire est historiquement, bien avant l'union bancaire, et c'est le cas encore aujourd'hui, extraordinairement difficile. Donc, voilà, commentaire sur la probabilité d'une opération transfrontalière en Europe, de quelque nature que ce soit, c'est qu'elle est structurellement très improbable.
Voilà, ça a le mérite d'être clair. Slavomir Krupa, le directeur général de la Société Générale, qui s'exprimait cet après-midi devant les actionnaires. Et puis encore un mot d'entreprise, c'était attendu, c'est confirmé. La holding et plusieurs entités du groupe Indexia ont été placées en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Le PDG d'Indexia, qui avait bâti un empire, hein, d'abord dans l'assurance téléphonique, puis dans les services liés aux produits médias, ce PDG sera lui jugé à l'automne en parallèle, en correctionnel cette fois. Il sera jugé pour pratique commerciale trompeuse. 19h11 sur BFM Business. On retourne sur les marchés. Je vous redonne la clôture à la Bourse de Paris. Ce soir, le CAC 40 qui perd 0,61%. 8092 points ce soir à la clôture. Bonsoir, Aude Karsulek.
Bonsoir.
Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps, Aude?
Ouais, on ne fait pas grand-chose. Hein. On manque de souffle sur les trois indices qui sont quasiment stables. Le Nasdaq est légèrement dans le vert en attendant l'événement de la saison des résultats. Il vient plutôt tard, hein, mais c'est la publication de Nvidia. En attendant, le titre baisse de 0,5%. 10% pour la troisième plus grosse capitalisation du monde. On verra si ces résultats trimestriels dépassent les attentes des analystes et si l'action peut aller au-dessus des 1 000 $. Elle est en ce moment à 949 $. On a Nvidia aujourd'hui, mais on a aussi les minutes de la Fed, un autre sujet favori des investisseurs avec l'IA. On va savoir ce qu'il s'est dit pendant la dernière réunion, même si sans surprise, on saura qu'on est très dépendant des données économiques. Et puis inquiétude, tiens, sur la consommation américaine, c'est Target, le distributeur qui a manqué les attentes. La direction fait état de pression sur le consommateur. Le titre est sanctionné, il baisse de 6,6%, mais donc Wall Street stable en attendant 22h20.
Ça sera effectivement le grand rendez-vous ce soir, cette trimestrielle d'NVIDIA. Merci beaucoup, Audot Karsulek, avec nous sur BFM Business. Il est 19h12, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov, avec nos experts. Beaucoup de choses à voir ensemble jusqu'à 20h. Bien sûr, Vivatech, qui a commencé cet après-midi à la porte de Versailles. Cette réforme de l'assurance chômage dont on connaît désormais quelques grandes lignes. Cette info de presse qui nous dit que le gouvernement envisage un one-shot. On désindexe les retraites et les allocations familiales de l'inflation pour récupérer jusqu'à 20 milliards d'euros. Ça tombe bien, on cherche 20 milliards pour l'an prochain. Tout ça plus bien d'autres choses jusqu'à 20h. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h16, on est reparti jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir
Audrey
à tous.
Tcherkov, bien sûr, avec nous et nos experts. Ils sont là, Cyril Lachef, fondateur de l'agence de communication Silence et Revenu. Rebonsoir Cyril. Bonsoir. Jonas Haddad, bonsoir Jonas.
Bonsoir.
Vice-président porte-parole de la Fondation Concorde, qui a le mérite de finir à pied, visiblement, Paris.
Absolument. Le plus durable possible.
Ça fait 2-3 fois là qu'on a des retardataires à 20h, à 19h15.
Je pense que ça ne fait que commencer.
Et là, ça ne fait commencer. Leonidas Kalogiropoulos est avec nous. Leonidas,
bonsoir.
Bonsoir, PDG de Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Alors c'est parti avec Fast et en train pour Vivatech 2024, 8e édition. Rappelle les chiffres de l'an dernier, hein, 150 000 visiteurs, près de 11 000 startups, près de 2 500 investisseurs. Et cette année, on le sait, c'est l'IA. Évidemment, qui va être le gros sujet de discussion sur
France. Et oui, alors Emmanuel Macron disait, rappelez-vous, en début de semaine, vouloir faire de la France une puissance de l'intelligence artificielle. Écoutez ce que disait ce matin Marina Ferrari, la secrétaire d'État chargée du numérique, puisque pour elle, eh bien, la France avance plutôt vite sur le sujet. On écoute et on en débat.
Qu'on a fait à l'époque sur la Startup Nation qui est en train de devenir la Deep Tech Nation est payant. C'est très important les investissements étrangers structurants, non seulement pour l'emploi, mais aussi pour nos capacités aujourd'hui, pour notre hardware, un peu j'ai envie de dire. Vous savez que l'enjeu de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est aussi nos capacités de calcul. Un des gros investissements qui a été annoncé, c'est celui de Microsoft sur un nouveau data center en France qui devrait contenir 25 000 GPU. Et vous l'avez vu, pour tous ceux qui sont férus aujourd'hui d'intelligence artificielle, la commission sur l'intelligence artificielle, dans son rapport, nous préconisait d'implanter 30 000 GPU supplémentaires par an en France. Donc, en un investissement, on atteint quasiment l'objectif. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, voilà, il faut raisonner au niveau européen, il faut raisonner au niveau mondial, et que la France est un pays de plus en plus attractif. Et ça, c'est grâce à la politique que nous conduisons, et c'est heureux.
Voilà, Marina Ferrari avec François Sorel. Interview pour écouter tout à l'heure en intégralité Tech & Co, spécial Vivatech, à partir de 20h sur BFM Business.
Oui, alors donc, Marina Ferrari cite l'exemple de Microsoft, et elle a bien raison, parce que elle aurait pu citer celui de Amazon, qui est un peu moins gratifiant, puisque Amazon Choose France annonce 1,5 milliard d'investissement en France, 2 jours après 7 en Allemagne, et là en Espagne, Cyril, ils viennent d'annoncer 16,7. Ouais, bon, voilà. Donc, on se rend bien compte des ordres de grandeur qui sont différents. Je vous parle même pas de ce qui est investi en Grande-Bretagne chaque année, qui est bien plus du double de ce qui est investi en France. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que, parce qu'on n'arrête pas de faire des déclarations sur le sujet, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place un environnement qui est plus attractif? Est-ce qu'on surrégule trop, Leonidas?
Écoutez, avant de poser la question de la surrégulation, je voudrais juste m'interroger sur ce qu'est la souveraineté numérique, qui est un terme que l'on utilise beaucoup et que le gouvernement utilise énormément. Moi, je dirige une association qui s'appelle l'Open Internet Project, qui se bat contre des abus de position dominante. Et je vous avoue que nos membres sont par moments un peu interloqués à constater qu'une entreprise comme Microsoft, ça a été annoncé dans la presse, va être l'objet d'une ouverture d'enquête par la Commission européenne pour abus de position dominante. Et je ne sais pas comment on fait pour combiner en même temps la problématique de la souveraineté numérique, le constat d'abus de position dominante et le fait de dérouler un tapis rouge en saluant l'arrivée des investissements, de la prise de position.
Ça s'appelle le pragmatisme, ça, Léonie.
Alors, ça s'appelle le pragmatisme et je l'entends. Et, non, mais c'est une question. Je ne veux pas commencer à aboyer de manière idiote et caricaturale. Je dis simplement que il ne faut pas, je pense, être non plus naïf. Lorsque l'on entend qu'il va y avoir des investissements, que l'on va avoir des supercalculateurs, qu'il y aura des data centers et que ça nous permettra de faire face à nos besoins de calcul, ça nous met également en situation d'extrême dépendance. Et ça met nos talents, nos diplômés en situation d'être chassés par des gens qui ont des poches sans fond. Pour les...
Oui,
pour
mais la solution à ça, à ce moment-là, c'est de créer en face des champions de la même envergure. Et donc pour ça, il faut évidemment des investissements et des ambitions au niveau européen.
J'entends bien, et le fait est aussi qu'il faut avoir la capacité pour nos jeunes pépites de croître sans trébucher sur des pratiques qui sont des pratiques déloyales. Donc l'ensemble de ces paramètres sont difficiles à concilier, et je trouve qu'au moment où on a un Vivatech qui arrive 48 heures à peu près après Choose France, c'est pas totalement évident de concilier.
Il faut trouver les bons financements en Europe, ce qui reste, on en parlait tout à l'heure, effectivement, aussi le gros sujet. Jonas Sadat, comment est-ce que vous regardez ce Vivatech là?
Oui, et puis vous êtes le seul avocat du plateau, donc sur les pratiques déloyales.
C'est pas faux. Dans les premières années, quand on fait une école de commerce, on nous apprend la stratégie de l'océan bleu, c'est-à-dire en gros d'essayer de pas aller sur le même océan que les océans habituels et de voir où est-ce que vous pouvez vous positionner différemment. C'est certain que si aujourd'hui, et ça fait combien, 10 ans, 20 ans qu'on dit on va créer le Google européen, il faut tout de suite redescendre, ça n'a pas fonctionné, il y a eu des tentatives françaises, ça n'a pas marché, etc. L'idée c'est de faire un pas de côté et de se dire où est-ce qu'on peut être meilleur. Quand on voit une start-up comme Mistral qui n'est plus une start-up, on voit bien qu'ils ont fait un pas de côté et qu'ils se placent dans ce cas-là, non plus en situation de débattre de savoir si on est dépendant ou pas, puisqu'en fait ils créent leur océan bleu à eux. Deuxièmement, en fait, pour réussir dans un pays, il y a besoin de trois choses, à mon sens. Il y a besoin, un, d'un écosystème. Avec Vivatech et ce qu'a annoncé le président de la République ce matin, on peut dire qu'on a l'écosystème. Deuxièmement, il y a besoin d'une régulation. Je pense que la régulation au niveau européen, maintenant on l'a, on a compris, vous inquiétez pas, tout le monde sait qu'en Europe, c'est régulé. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, le troisième facteur clé de réussite, c'est l'argent. Et c'est là où ça pêche. Encore une fois, comme toujours, comme souvent, je le dis, on a un trou dans la chaîne de financement. Ouais. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'année dernière, moins 50% de levée de fonds, de façon globale. Et donc, en fait...
Ça, c'est pas franco-français, hein, c'est là...
Alors, c'est pas franco-français, on est à moins 50% en France, on est à moins 60% en Allemagne, donc ça va plutôt bien de ce côté-là. Mais encore une fois, si on veut voir émerger des champions... Il faut qu'on ait de l'argent. Et pour cela, il faut, et je peux le redire encore 15 fois, mais il faut qu'on massifie l'apport d'argent dans les entreprises innovantes. Il faut qu'on élargisse l'IRPME. En fait, si vous voulez, il faut qu'on passe d'une nation de personnes qui mettent dans la pierre ou dans l'épargne à une nation de personnes qui se disent « Ok, je vais mettre un peu d'argent dans des entreprises innovantes. » Parce que si on ne prend pas cette taille-là, eh ben, ça continuera d'être des fonds de pension américains qui financent Microsoft. En fait, on a besoin d'élargir la taille de ceux qui investissent dans nos startups.
Alors, on rappelle ce chiffre. En 2023, c'est 8 milliards d'euros investis dans les entreprises tech en France. Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin, Cédric ? Cyril, alors, pardon. Alors, moi, je trouve que la Grande-Bretagne, c'est plus du double. Hein.
Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jonas sur les trois choses qu'il faut pour favoriser cette croissance. Moi, je rajouterai une quatrième. Je reviendrai après sur l'argent. La quatrième, c'est évidemment l'éducation au sens très large. Et là aussi, on voit que ça commence à pêcher en matière scientifique et d'une manière générale dans la recherche. L'argent, ce qui est terrible, c'est qu'on en a. Mais effectivement, on en a énormément, même en France, en réalité, d'argent. Le vrai argent, on va dire, parce que celui du gouvernement, c'est le nôtre aussi. Non, mais on en a, mais malheureusement, effectivement, on ne sait pas le flécher vers les beaux projets, et pour tout un tas de raisons. Donc ça, c'est un vaste débat.
Mais alors, l'épargne, c'est-à-dire, on a un livret A, il faudrait un livret IA.
Oh, oui, oui, c'est, une...
ah, c'est joli.
Ah, c'est beau. Pas mal. Mais poser, bien ça, évidemment, hein. Oui, bah, ce sont des fonds de pension, on les appelle comme on veut. Des fonds, oui. D'ailleurs, puis t'insistes, mais les Français sont favorables à ça, majoritairement, quand on les interroge comment financer la retraite.
Mais on n'en fait rien
par des fonds de pension. Ils sont majoritaires. C'est la première des réformes, c'est la première des mesures qu'ils proposent. Donc, il n'y a que le gouvernement pour ne pas la vouloir. Enfin bon, ouais. Au passage, effectivement. Voilà, donc si on a réuni tous ces éléments-là, on peut rivaliser. Mais... encore une fois, après, on n'a pas besoin de se battre sur tous les sujets face à des géants.
Non,
comme les États-Unis,
notre spécialisation, mais effectivement, voilà. Qui a trouvé ce...
Je veux juste peut-être redire, et oui, pardonnez-moi, ouais. En fait, on vit un moment qui est particulier, c'est une crise de l'immobilier. Ouais. D'accord, donc il y a de moins en moins de gens qui investissent.
On en parlait d'ailleurs.
Il y a de moins en moins de gens qui investissent dans l'immobilier. À côté de ça, on vit un deuxième moment, c'est qu'il y a une nouvelle génération d'investisseurs qui arrive. Vous allez voir, pendant Vivatech, il y a plein d'entreprises maintenant qui, à l'américaine, vous propose d'investir un petit morceau, un peu dans quelques startups, de mettre des actions fractionnées ou des choses comme ça. Donc, et ils sont aussi à l'aise avec tout ce qui est les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'une génération d'investisseurs qui est plus fluide dans son investissement, il faut profiter de ça, quitte à faire des incitations fiscales. Alors, on peut l'appeler livret IA, on peut l'appeler autrement, mais à dire. Voilà, les nouveaux investisseurs, n'investissez pas comme papa, maman, c'est pas plus mal, hein. Mais essayez de vous embarquer dans quelque chose de plus innovant.
Quel travail de pédagogie,
mais ils ont envie de ça. Les milléniaux ont envie de ça. Les milléniaux ont envie de ça, je vous assure.
Ouais, il faut espérer. Écoutez, vous parlez de Mistral. Écoutez, Arthur Mensch, fondateur de Mistral, justement, qui était auditionné ce matin à l'Assemblée nationale et qui disait on n'a pas encore pris conscience de l'ampleur des révolutions que va engendrer la montée en charge de l'intelligence artificielle, ne serait-ce que sur le marché du travail, par exemple. Écoutez ce qu'il disait ce matin à l'Assemblée.
Pour beaucoup de métiers, y compris des métiers du service relativement bien payés aujourd'hui, c'est des métiers qui vont, alors je ne vais pas dire disparaître, mais très largement modifiés dans les 10 prochaines années. Donc ça, je pense qu'il faut largement l'anticiper dans une économie qui est dominée par le service en France. Ça veut dire que la structure du travail et du marché du travail va profondément changer dans les 10 prochaines années. Et je ne suis pas sûr que le législateur en ait parfaitement conscience des changements que ça apporte.
Alors ça c'est clair, ouais. On a un marché du travail qui est en plein bouleversement. Quand on voit que le nombre d'offres d'emploi dans l'IA augmente 3 fois plus rapidement que dans tous les autres secteurs, et on a un vrai enjeu de formation, puisque justement ce sont aussi des salaires qui sont à peu près 25% plus élevés.
Non mais c'est là où je pense qu'on a, on a collectivement envie que ce soit nos boîtes, nos talents, nos investissements, nos objectifs, notre morale aussi, ouais. Qui l'emporte dans la conception de ces outils qui vont effectivement révolutionner l'ensemble de nos modes de fonctionnement, mais qui ont aussi besoin d'être alimentés avec un certain nombre de principes éthiques. Cette IA-là, elle a besoin d'être nourrie par la collecte d'informations. Ces informations-là, il faut savoir si elles sont utilisées aux dépens de ceux à qui elles sont prises. Est-ce que c'est de la création intellectuelle qui est siphonnée, ou est-ce qu'elle est rétribuée? Enfin, ce sont des éléments qui nous concernent un peu collectivement dans notre mode d'organisation. On a plutôt envie que ce soit nos outils plutôt que d'avoir des outils qui viennent révolutionner nos modes d'organisation sociale et qui nous viennent d'ailleurs.
Oui, mais pardon, mais parce que les principes éthiques, évidemment, je vous rejoins là-dessus, on est tous d'accord, mais si on les applique uniquement aux entreprises françaises ou aux entreprises européennes et qu'on déroule le tapis rouge aux Américains, notamment,
qui revient à notre problématique de tout à l'heure.
Voilà, exactement. Et bien forcément, c'est un problème de compétitivité. Cyril.
Exactement, avec encore une fois le fait que l'IA peut améliorer la compétitivité, enfin du moins la productivité. Moi j'y vois que des avantages à titre personnel, parce que je pense que on a tort de vouloir opposer IA et emploi, pour faire très très court.
Alors on est d'accord.
Mais après effectivement c'est un défi et il faut quand même réglementer, non pas tant en fait l'usage qui est fait des données, mais la collecte des données, paradoxalement, parce que c'est le nerf de la guerre. Et c'est, enfin je veux dire, ça existe bien avant l'IA. Enfin je veux dire ce qu'on appelait le big data, ce qui a l'air complètement dépassé, mais qui est en fait la base de tout. Je veux dire, ça fait des années que des gens vous expliquent qu'ils peuvent prévoir le taux de divorce dans 3 ans en fonction de l'utilisation de cartes bleues aujourd'hui, parce qu'ils voient ce que les gens font avec leurs cartes bleues, voilà, en dehors des circuits classiques, on va dire. Donc voilà,
c'est pas si on racontera ça à Vivatech, voilà, parce que c'est pas
bon. Donc à partir de ce moment-là, voilà, c'est ça. Après, la question c'est de savoir s'ils dévoilent les informations qu'ils ont récupérées sur les cartes bleues.
Je vous rappelle quand même que Sam Altman lui-même, donc le fondateur d'OpenAI à Davos, et c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, disait attention, la machine va beaucoup plus vite que l'homme, et elle est en train de nous dépasser. Ça fait peur quand même, Jonas.
Oui, en fait, l'IA, c'est un cheval. Donc, soit on lui demande de s'arrêter, soit on le chevauche. Non, mais clairement, ouais, c'est-à-dire, c'est un peu le même sujet qu'à l'époque des robots, vous savez, avec le Japon, où tout le monde disait, vous allez voir, le Japon va totalement se déstructurer par rapport à sa robotisation, ou même l'Allemagne. Et en réalité, on a bien vu que les conséquences sur l'emploi, elles sont bénéfiques, mais si on prend les morts, si vous voulez, de ce cheval-là, si on l'exploite pour gagner de la compétitivité et derrière le plugger dans de l'industrie, ça a du sens. Notre difficulté, nous, c'est qu'on a à la fois... Alors, on peut se rattraper sur l'IA, hein, mais on n'a pas chevauché le cheval numérique et on a en même temps désindustrialisé. Donc, en fait, on a cassé notre chaîne de valeur. Ouais. Alors que là, on réindustrialise et on met de l'IA. Donc, normalement, ça devrait fonctionner.
On a essayé d'arrêter le cheval, ça n'a pas marché.
C'est pas faux.
Pour l'instant, ça n'a pas marché. Allez, VivaTech 2024 qu'on va suivre sur BFM Business. Bah, regardez le programme si vous nous suivez à la télévision. Tech&Co, bien sûr, ce soir en direct sur BFM Business depuis la porte de Versailles. Pareil demain, vendredi 17h, Sport Business, puisqu'on diffusera l'intervention des Sœurs Williams. Vous savez qu'ils sont invités de marque cette semaine du côté de la porte de Versailles. Et puis vous voyez les pionniers chez Fred Mazzella vendredi 20h, et puis tout le week-end des rendez-vous spéciaux pour vous accompagner, pour vous faire suivre bien sûr ce VivaTech édition 2024. Il est 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business. Nous sommes avec Cyril Lachèvre, Jonas Haddad et Léonidas Kalogeropoulos. Et bien sûr, Guillaume Paul. On le rappelle quand même. Avec nos experts, on parle maintenant de cette réforme de l'assurance chômage dont on connaît, ça y est, enfin les grandes lignes. Donc, le ministère du Travail les a dévoilées après avoir commencé à recevoir les partenaires sociaux. Et donc, c'est confirmé, les conditions d'affiliation vont être durcies.
Bah oui, parce que jusqu'à présent, il fallait avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir les droits. Là, il faudra avoir travaillé 8 mois seulement sur les 20 mois précédents. Mesure qui permettrait d'économiser 3,6 milliards et créerait 90 000 emplois d'après le gouvernement. Écoutez ce que nous disait alors ce matin Marie-Lise Léon, la numéro 1 de la CFDT. Avant d'aller chez Catherine Vautrin, elle disait déjà que c'était une réforme purement budgétaire et rien de plus. Écoutez.
Moi, je pense que l'objectif réel, c'est faire encore plus d'économies. Le sujet, il est d'abord budgétaire. On est sur un système assurantiel, c'est-à-dire qu'il y a des cotisations qui permettent d'alimenter ce système qui est un amortisseur social pour faire face à des crises et qui n'a rien à voir avec le budget de l'État. C'est ça qu'il faut que le gouvernement entende. Le régime d'assurance chômage n'est pas une variable budgétaire d'ajustement pour le budget de l'État.
Jonas Haddad, je vous sens dubitatif, mais enfin, on ne peut pas dire qu'en faisant ça, le gouvernement ne cherche pas à faire, un, des économies, deux, à étatiser le système, et puis trois aussi, évidemment, à tendre vers son objectif de plein emploi.
Bon, je ne suis pas toujours l'avocat du gouvernement, mais pour le coup, on ne peut pas leur en vouloir. D'abord, un, argument d'autorité peut-être, mais en faisant ça, on se place dans la moyenne européenne. Bon, ils ne sont pas tous bêtes. Deuxièmement, les gains qui sont affichés, vous avez donné des sommes, 90 000 emplois, c'est peut-être pas ça qui structurellement motive le gouvernement. Ce qui motive le gouvernement, et de ce que j'ai cru comprendre dans les discussions avec eux, c'est qu'en réalité, on a aujourd'hui le résiduel pour atteindre le plein emploi, qui serait quelque chose de bon pour le pays, qui est en fait sur des personnes qui ont complètement assimilé la façon dont fonctionne l'indemnisation et qui jouent un petit peu avec ses marges. Et enfin, j'en terminerai pour réagir par rapport à ce qu'a dit la dame de la CFDT. Elle oublie qu'entre-temps, il y a eu une réforme qui est passée par rapport aux crises. Et vous savez qu'il y a la fameuse météo de l'emploi qui a été mise en place, dans laquelle on peut moduler. Donc, dans ce qu'elle dit...
Le contrat cyclique.
Elle oublie cette réforme-là qui, justement, est faite pour pouvoir venir faire varier. Donc, c'est-à-dire que, si vous voulez, on peut rester dans ces eaux-là. Donc, c'est-à-dire maintenant qu'il faudrait travailler 8 mois sur les 20 derniers mois.
Oui, oui.
Objectivement, on ne peut pas trouver ça fou que la moitié...
C'est un tour de vis significatif par rapport aux règles actuelles.
Oui, mais attendez, mais vous imaginez, nos téléspectateurs, est-ce que, pour ceux qui connaissent, parce qu'ils ne connaissent pas tous... Avant, il fallait travailler que 6 mois sur les 24 mois. Ça, vous imaginez 6 mois sur 2 ans? Enfin, là, c'est peut-être un tour de vis, mais avant, la vis, elle était totalement ouverte. Enfin, le truc était branlant, quoi.
Alors, c'est vrai que c'est un dispositif beaucoup plus généreux que l'ensemble de nos voisins et pas forcément très incitatif au retour à l'emploi.
L'Allemagne, c'est 12 mois sur 24. Hein,
non, mais il est fait pour les temps de crise. Le système tel qu'il était avant. Il était objectivement conçu pour être très généreux lorsqu'il n'y a plus d'emploi.
Voilà, mais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.
Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on peut considérer que l'on fait un maximum d'efforts pour accompagner nos concitoyens qui sont confrontés, j'allais dire, à ce terme qu'on a utilisé, à la fatalité du chômage.
Oui.
Il n'y a plus une fatalité du chômage. Il y a des emplois. Il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, on le sait.
Oui, mais 300 000 Léonidas, attendez.
Alors, on va dire un sujet de formation quand même.
Est-ce que vous dites qu'il n'y a plus de fatalité au chômage? Non, on ne peut pas être d'accord avec vous.
Non, pardon, Guillaume, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne trouvent pas un emploi seraient fautifs. C'est pas le raisonnement. Ouais. Le raisonnement consiste à dire que il y a beaucoup plus de chances d'arriver à trouver un emploi quand on en cherche, parce que l'activité économique produit des emplois et le recul du chômage en atteste. Donc on adapte notre dispositif d'accompagnement du chômage à la situation économique. C'est une évolution qui est normale. D'ailleurs, si les conditions de chômage redevenaient, j'allais dire dramatiques, on reviendrait probablement au système antérieur. Donc c'est assez logique. Et puis il y a un autre point, vous soulignez que les salariés ou les citoyens ont intégré le mode d'accompagnement, on le voit notamment avec le travail temporaire. Le travail temporaire, c'est souvent un travail temporaire choisi. Et quand on regarde pourquoi les gens s'arrêtent de travailler à deux tiers de temps, on se rend compte que s'ils mordent sur la ligne des deux tiers de temps, ils perdent toutes les allocations auxquelles ils ont droit. Donc c'est vrai qu'on intègre tous ces mécanismes et qu'au bout d'un moment, on s'y fait et on s'adapte.
Donc vous dites réforme correctement calibrée, on est d'accord.
Je pense qu'elle est convenablement calibrée.
Cyril, est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, ce qui est très clair dans la stratégie du gouvernement, c'est que là maintenant c'est une pince à deux niveaux. Hein. D'un côté, c'était les premières annonces du Premier ministre Gabriel Attal, c'est on va réduire la durée d'indemnisation et donc à la sortie en quelque sorte, pour les inciter à sortir plus vite. Et là maintenant on va boucher un peu l'entrée en permettant d'entrer que ceux qui ont un peu plus de conditions, remplies de conditions de travail. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement on sent que c'est même... C'est une réforme budgétaire peut-être, mais je sais même pas. D'un point de vue philosophique,
c'est epsilonesque, 90 000 emplois.
Oui, mais c'est inciter les gens à reprendre l'emploi alors qu'il y a des métiers extrêmement tendus et que quelque part on se demande quand même où est passée une petite partie de la manœuvre française. Je prends un exemple qui peut paraître très choquant. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage d'infirmiers qui pointent au chômage?
Non.
15%.
Alors que les besoins
15% sont... dans la catégorie à Pôle emploi, vous avez 15% des infirmiers déclarés qui sont à Pôle emploi ou qui régulièrement pointent au chômage. Vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas un petit problème en termes de santé, de personnel de santé. Oui. Donc, c'est qu'effectivement, je suis désolé, je ne jette pas la pierre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement un côté incitatif. Alors, c'est parce que beaucoup d'infirmiers maintenant sont plus que libéraux, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment intérimaires, ils alternent entre les deux. Mais bon, voilà, quelque part, on a un problème de santé publique.
Oui, c'est clair, mais est-ce que pour répondre à ça, au lieu de se concentrer sur le fait que le chômage paye moins, est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur le fait que la formation soit mieux financée?
Mais ce sont des sujets différents, je crois.
Des sujets hyper complémentaires.
Ce sont aussi des situations dans lesquelles on peut retrouver un emploi. On peut aussi, effectivement, s'inscrire dans des formations. Il y a l'ensemble des le crédit pour être formé, le crédit pour les personnels de formation qui existe. Enfin, il faut quand même globalement lancer un message qui est un message national, qui est que travailler et trouver sa place dans la société et dans le travail, c'est un modèle et c'est le cœur du modèle. Que ça soit pas le cœur du modèle lorsque, effectivement, il y a ce chômage endémique et qu'on s'adapte, soit. Mais quand on est en train de passer de l'un à l'autre, il faut vraiment propulser la société entière vers la valorisation du travail.
Jonas Haddad.
En revanche, là où je vous rejoins, Audrey, c'est qu'on n'a pas pris en compte la mutation du marché du travail. Oui. D'abord, aujourd'hui, vous savez, quand l'INSEE fait ses statistiques, il considère qu'un jeune qui sort sur le marché du travail aujourd'hui aura 14 jobs. Oui. Il sera soit dans l'associatif, soit en moment entrepreneur, etc. Je rappelle, la réforme, alors encore une fois, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais je vante la réforme de François Hollande, compte personnel d'activité. C'était une très bonne idée qui a été confisquée par des sujets politiciens. C'était de dire vous emporterez avec vous en permanence votre sac à dos social.
Ouais,
c'est-à-dire qu'en gros, quoi qu'il arrive, vous emportez avec vous, vous ne perdez pas vos droits formation, vos droits retraite, etc. Donc en fait, le marché du travail demain, ce sera ça, avoir ce sac à dos social. Deuxièmement, et on peut le dire aussi par rapport à ça, le fait qu'on dise qu'aujourd'hui, on a cette tenaille, cette pince, comme vous évoquez, à la fois sur l'indemnisation et aussi sur potentiellement le fait qu'on remette les gens au travail, ça on peut en parler des heures, ça pose la question qui est évoquée dans le secteur public de la semaine des 4 jours. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous durcissez les mécanismes sur les gens, les salariés du privé, plus vous allégeriez la façon dont les gens dans le public travaillent. Ça crée une forme de disparité. Et attention à ce que ça craque pas. Moi, je le dis parce que c'est l'idée tarte à la crème en ce moment, comme les 35 heures pendant un moment. Alors qu'objectivement, on est en train de faire s'écarteler de marché du travail.
Et alors, surtout que je précise aussi que les pays dans lesquels la protection contre la perte d'emploi est assurée par l'État, ce n'est pas financé par des cotisations, c'est financé par l'impôt.
Absolument.
Bien, dans la série, on cherche des gros sous. Qu'est-ce que vous faites de cette info de presse? Alors, vous savez que le gouvernement cherche des milliards, 20 milliards d'euros d'économies l'an prochain. Et ce qu'on lisait dans la presse aujourd'hui, c'est que plusieurs députés dans la majorité poussent pour que l'an prochain, ben voilà, on désindexe tout simplement les retraites et les prestations sociales de l'inflation. C'est une sorte de one-shot qui pourrait rapporter, tenez-vous bien, jusqu'à 20 milliards d'euros, les précisément.
Les fameux 20.
Vous achetez ce one-shot par les temps difficiles, pourquoi pas? Est-ce que vous achetez cette proposition pour...
Écoutez, je vais...
Ce qui, politiquement, est quand même très, très...
Me permettre d'avoir un avis qui est purement économique et pas politique sur ce sujet, c'est que la meilleure manière, on le sait bien, de ne pas alimenter la spirale de l'inflation, c'est de, on l'a fait dans les salaires dans les années dans la fin des années 80-90, c'était de désindexer les salaires. Donc à un moment donné que l'on désindexe les retraites et les prestations, ça semble être logique, même dans une perspective de ne pas alimenter la spirale inflationniste. Donc que ça permette de gagner 20 milliards par la même occasion et que ça freine la spirale inflationniste, économiquement ça peut tenir, politiquement je ne sais pas si ça tient.
Alors politiquement et socialement, parce que ne pas indexer les prestations sociales sur l'inflation, ça veut aussi dire rogner sur le pouvoir d'achat.
Ça ne veut pas forcément dire sur la totalité, il faut regarder lesquelles.
Oui, d'accord, mais enfin on voit bien que ça va forcément avoir une incidence sur les publics les plus fragiles, alors que la promesse du gouvernement, c'est quand même précisément l'inverse, non ?
Jonas,
je serais au départ un peu de votre avis. Après, la réalité, c'est qu'il y a des prix qui ne redescendront pas.
Oui.
Je vous prends des dépenses contraintes comme l'essence. Vous voyez même qu'au contraire, que d'ailleurs, les sujets d'inflation en fait n'impactent pas. Alors ça, ce serait tout un débat philosophique de savoir pourquoi après derrière les producteurs ne baissent pas. Mais il y a des dépenses qui sont contraintes et ces dépenses-là, c'est assez compliqué de ne pas voir que l'inflation progresse. C'est moins le cas dans l'alimentaire, ça c'est certain, ça s'est un peu calmé, mais encore. Deuxièmement, quand même, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les gens qui sont dans le marché de l'emploi. On parle d'acceptation sociale. Les gens qui sont au marché de l'emploi, notamment d'une certaine génération, peuvent aussi se dire ce serait bien d'arrêter en permanence de financer des gens qui sont en retraite, qui vont avoir leur retraite, etc., mais qui ne sont pas les plus actifs de la Terre. Quoi. Vous voyez, donc ça peut avoir du sens.
Mais qui votent massivement.
mais qui votent plus tant que ça pour Emmanuel Macron. Voilà. Vous avez vu les derniers sondages.
Qui sont encore ceux qui votent effectivement pour
Emmanuel Macron. Plus. Ouais. Il est dépassé même dans cette catégorie-là.
C'est pour ça qu'on parlera pas de ça éventuellement avant les
élections. Je sais pas, mais voilà.
Cyril, est-ce que ça vous paraît logique d'aller chercher, d'aller taper un petit peu les retraités au portefeuille finalement?
Alors dit comme ça, moi ça ne me choque pas, à la fois sur la durée, parce qu'ils ont bénéficié d'énormément de réformes, de coups de pouce ces dernières années, probablement pour des raisons électoralistes, et donc quelque part en masse globale, c'est pas absurde que eux aussi soient finalement remis un peu à l'équilibre par rapport à leurs bénéfices précédents. Ensuite, parce qu'il y a 18 millions de retraités en France, donc quelque part c'est quand même une mesure, certes qui rapporte beaucoup, mais qui touche énormément de monde, et donc finalement le coût marginal par personne, par tête, pas si élevé que ça. Par contre, c'est un autre débat, je crois pas qu'on résoudra le problème des finances publiques ou des déficits publics juste par des mesures one shot, comme vous dites. Donc c'est probablement bien, parce qu'il y a quand même un sujet qui va devenir majeur, hein. Emmanuel Macron part en Allemagne dans peu de temps. C'est que pour l'instant tout le monde se fait des sourires, etc., parce qu'on laisse passer les élections. Mais quand vous parlez à la Commission européenne, les fonctionnaires, hein, pas les politiques qui sont bientôt plus là, mais je veux dire, le sujet qui va arriver bientôt, c'est que l'Allemagne va vraiment changer de ton à notre égard, l'Europe va vraiment changer de ton à l'égard de la France. Donc ça va être très très tendu, vraiment tendu.
D'où les petits signes que nous sommes en train d'adresser, peut-être.
Voilà, exactement. Voilà, c'est politique.
Mais encore une fois, on ne peut pas profiter de ce sujet pour quand même dire que lorsque l'on est une entreprise et que l'on a un creux de vague, on sait faire des économies. On sait faire des économies de 1, de 2, de 3% sur son train de vie.
Ah bah oui, si le gouvernement était aussi bon gestionnaire, ça serait l'honnêteté.
Non mais d'accord, mais je dois dire qu'effectivement, chercher sur ce type de solution les 20 milliards, c'est quand même, je vous aide meilleur en calcul que moi, mais par rapport au budget de l'État, c'est...
Ouais. Hein? C'est pas, ce serait, pas ouais, ce mais serait je suis quand même assez surpris par ce chiffre de 20 milliards.
Je dis jusqu'à 20 milliards, attention.
Ouais, ça me paraît un peu élevé pour une non-indexation.
Bon, en tout cas, lorsque Thomas Cazenave, donc le ministre délégué aux comptes publics, en a parlé en Conseil des ministres, Emmanuel Macron aurait dit, je cite, il faut arrêter de sortir des mesures qui n'ont même pas été évoquées, sauf si vous voulez perdre les élections. Non, mais parce a priori, la porte est refermée.
Oui, bien, oui, mais bon, juste pardon, un calcul, hein, mais quand on sous-indexe de 1% par rapport à une inflation, si on a une inflation de 2,5 milliards. Ouais, donc 20 milliards, ça me paraît. Enfin, ce chiffre
jusqu'à 20 milliards, vous disiez.
C'est marrant, l'inventivité permanente. Hein. Je ne reproche pas, alors que les bureaux des ministres sont pleins de rapports d'où faire les économies. Enfin, je veux dire, il suffit
là,
de les ouvrir.
Quelques députés de la majorité, à part.
Ah oui, oui.
Voilà.
Bon.
Voilà pour ce dossier. Les gros sous, toujours. La
recherche. Oui, et puis voilà, on voulait redire un mot de logement avec ces chiffres qui sont sortis hier et qui nous disent que les besoins en nouveaux logements en France sont sous-évalués. Il en faudrait, en fait, 400 000 nouveaux par an d'ici 2030.
Ouais, étude conjointe de l'Union nationale des aménageurs et de l'École supérieure des professions de l'immobilier. Alors écoutez ce que disait ce matin le ministre du Logement, justement, Guillaume Casbarian, qui voit au moins une bonne nouvelle dans le contexte actuel. Il dit, voilà, les taux de crédit se desserrent un peu, donc ça peut nous arranger. Écoutez.
Et certain, c'est qu'il y a bien un secteur qui est concerné par les taux d'intérêt, c'est le logement. Et quand en 18 mois, vous avez eu une augmentation de 400 points de base des taux d'intérêt, ça a un impact sur la capacité des Français à acheter. Mmh. Quand vous allez voir votre banquier, vous faites votre simulation à 1%, c'était le cas il y a 2 ans, c'est pas la même que quand vous avez une simulation à 4%, et tous les Français qui sont allés voir leur banquier le savent. Mmh. Alors néanmoins, donc oui, les taux d'intérêt ont un impact significatif, pas qu'en France. C'est la même chose partout. J'étais en Allemagne la semaine dernière, mes homologues allemands ont exactement le même problème de crise du logement. Bon. Là, ça commence à aller un tout petit peu mieux. On a quand même des signaux encourageants. Les taux d'intérêt baissent. Ils sont redescendus sous la barre symbolique des 4%. Les banques nous indiquent que le robinet du crédit est ouvert. Et nous avons une augmentation de la production de crédit de plus de 70% par rapport à décembre dernier.
C'est donc plus facile d'emprunter.
Ça reste un niveau qui est bas, mais ça va un petit peu mieux et ça se retend.
Mais il sait très bien que le problème n'est pas là. Il n'y a pas d'offre en face.
Et bah,
268 000 mises en chantier l'an dernier en France.
Pire
année depuis 30 ans.
On avait une crise de l'offre, une crise de la demande. La crise de la demande est en train de légèrement se résorber, comme ça a été dit, mais la crise de l'offre n'est absolument pas résorbée. En fait, il y a plusieurs critères là-dessus. D'abord, il y a évidemment nos difficultés structurelles, mais on s'est mis nos propres boulets au pied. Je rappelle quand même avec Lausanne, on n'en parle pas beaucoup, mais cette loi qui prévoit
On en parle beaucoup ici. Hein,
ouais. Zéro artification.
Oui, alors j'essaie de faire de démocratiser ce terme-là. Ouais. Zéro artification nette qui, en fait, contraint la masse globale de construction quand même dans notre pays qui a été votée par les députés de cette majorité, hein, de ce ministre-là. Deuxièmement, les DPE qui sont très durs, tout le monde le sait sur les diagnostics. Et enfin, dernier point, le fait que comme il n'y a pas eu beaucoup de ventes, les promoteurs immobiliers, la moitié ont mis la clé sous la porte. Donc quand vous n'avez pas d'acteurs pour produire, et on a coutume de critiquer les promoteurs immobiliers, mais quand vous n'avez plus pour produire, bah, vous n'avez plus pour produire. Et donc, résultat des courses, et bah, en fait, on a une demande maintenant qui va être là et on n'a toujours pas d'offres. Donc voilà. Et enfin, dernier point, et je laisse mes camarades compléter, c'était très justement dit dans les articles qui étaient relatifs à ça, c'est l'évolution des structures familiales. Quand vous êtes aujourd'hui de plus en plus de célibataires...
Desserrement des ménages.
C'est très joliment dit.
Ça, c'est très triste. Hein. C'est le vieillissement de la population et les divorces de plus en plus nombreux.
Voilà. Surtout en Île-de-France.
Surtout en Île-de-France et dans les grandes agglomérations. Cyril, une minute chacun à peu près sur ce dossier.
Alors moi, je vais faire un petit pas de côté ou prendre un peu de hauteur si je puis me permettre. Et ce que dit à un moment donné le ministre sur la situation en Allemagne est très important. Et je trouve que le logement, c'est le sujet majeur de l'Europe. Hein. Et c'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles l'Europe a aussi mauvaise image dans les pays et que l'extrême droite progresse autant. Et je suis effondré de voir que ce n'est absolument pas un débat. Alors, je ne parle même pas de notre campagne qui est minable, mais c'est un vrai sujet. Mais sur des histoires idiotes. C'est-à-dire, par exemple, le logement étudiant, quand vos enfants font des études, ce qui est le cas des miens, à l'étranger, c'est horrible. Et donc, ils ont l'impression, d'autres pays dont on est très proche européen, que les méchants français viennent leur piquer les logements parce qu'ils viennent étudier chez eux. Et en fait, c'est une source de tension considérable. Donc ce problème du logement, pardon de pas répondre directement à votre question, il est majeur.
Mais le MEDEF disait, c'est un frein même à la réindustrialisation.
Il faudrait la nouvelle commission doit mettre un commissaire européen au logement en priorité.
Oui, absolument, mais c'est un sujet qui, pour le moment, ne figure pas dans les priorités d'Emmanuel Macron.
C'est vrai que je suis totalement d'accord avec vous, c'est un problème politique au sens vraiment noble et général. C'est comme le numérique, certes, il y a un ministère du numérique, on sait tous que le numérique concerne la totalité des secteurs, et le logement concerne la totalité des secteurs, totalité des régions. Et on a l'impression, c'est quoi, ça fait trois ans, que l'on est devant une crise du logement qui ne fait que s'aggraver. On a l'impression, effectivement, que le truc est laissé en jachère, et il n'y a aucun portage politique. Alors, il y a un projet de loi qui est en train d'arriver, que va porter le ministre, et on verra bien comment des solutions pourront émerger.
Qui ne va pas révolutionner les choses.
Mais non, le projet de loi ne va pas révolutionner quoi que ce soit, mais il va au moins donner l'occasion de mettre au niveau politique un sujet qui était, j'allais dire, diffus, mais qui est effectivement un problème majeur dans notre pays.
Voilà pour cette crise du logement, dont on reparlera sans doute évidemment sur BFM Business. Allez, 3 minutes avant la fin de cette émission, c'est l'Extra Time, comme tous les soirs, vos avis du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes, enfin à peu près 30 secondes toujours.
Allez, qui se lance?
Léonidas avait la main, alors.
Bon, bah écoutez, volontiers, mais je me permettrai de redire ce que je disais tout à l'heure, et je le dis en plus en assumant totalement que je rassemble une bonne vingtaine de sociétés de la technologie numérique française et européenne dans l'Open Internet Project, et que l'on a des membres qui sont quand même très très étonnés de voir des acteurs comme Microsoft qui font le objet d'enquête pour abus de position dominante, qui vont être déclenchés par Bruxelles et à qui on déroule le tapis rouge. Il y a un moment donné où il va falloir concilier notre volonté d'accueillir des géants qui investissent et notre volonté d'avoir une souveraineté numérique qui tienne la route.
Le coup de cœur, le coup de gueule, pardon.
Le gueule, oui. Ça, c'est bien dit, voilà. Jonas Haddad, vous emboîtez le pas.
Alors, moi, j'ai un coup de cœur par rapport à ce qui a été annoncé depuis hier sur l'intelligence artificielle, puisque je pense, et on revient au début du débat, qu'on peut faire de la France le pays leader de l'IA. Plusieurs raisons pour ça. D'abord, alors, on est très fort là-dedans, mais on va accueillir un nouveau sommet qui va faire de Paris la capitale de l'IA en 2025. Encore un sommet. Deuxièmement, on a de plus en plus de data centers qui peuvent s'implanter chez nous. Pourquoi ? Parce que grâce au nucléaire, je le dis quasiment à toutes les émissions, on a une énergie qui est peu chère et qui pourra être utilisée. Enfin, troisième point, l'État vient d'annoncer un nouveau fonds sur l'IA. Et donc, on a l'écosystème nécessaire pour faire en sorte qu'on devienne, au moins en Europe, on verra pour le monde par la suite, le leader de l'intelligence artificielle.
Et ben voilà un coup de cœur.
Voilà. Est-ce qu'on aura un deuxième coup de cœur ce soir, Cyril, ou un coup de gueule? Non.
Alors, moi, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. Bon. Je laisserai en juger. Et pardon, parce que c'est un petit peu technique, mais je trouve ça assez intéressant. C'est le fait que le gendarme boursier américain, la SEC, va probablement autoriser des ETF, des fonds synthétiques sur la crypto-monnaie Ethereum. Et alors ça, moi, ça me fascine. Donc, en gros, ça va drainer beaucoup d'argent d'investisseurs particuliers qui vont acheter des ETF pour copier une monnaie. Donc en fait, on va des fonds synthétiques qui vont copier une monnaie artificielle. Donc il y a deux manières de voir les choses. Soit on est en train d'inventer un nouveau concept économique, c'est fascinant. Soit on est en train de refaire une bulle réglementaire et avec qui va s'effondrer derrière. Et ça, c'est effrayant que la SEC l'autorise.
Un monde parallèle. Oui.
Je le verrais plus comme un coup de gueule, moi, personnellement.
Je pense, mais peut-être aussi que c'est une innovation qui va tout révolutionner.
Il y a une complémentarité entre nos trois interventions, parce que ça rappelle la nécessité d'avoir un peu nos règles et d'être capable de sanctuariser un peu soit quoi nous non, et de ce point de vue-là, tant mieux que l'on structure notre souveraineté et faisons attention à ne pas être totalement submergé par des règles ou des non-règles qui ne sont pas les nôtres.
Allez, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup messieurs d'être passés. Cyril Lachef, fondateur de l'agence Silence, Jonas Haddad, vice-président porte-parole de la Fondation Concorde, Léonidas Kalogiropoulos, PDG de Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Merci messieurs, à très vite avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. 19h56, c'est fini.
Eh oui, c'est terminé. Ceci dit, le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com sur toutes les plateformes et en replay et en podcast. Et puis bien sûr, on se retrouve demain soir.
On se retrouve demain soir, 18h pour nouvelles aventures. Tech & Co depuis Vivatech, Port de Versailles, avec François Sorel et toutes les équipes dans un instant. Très bonne soirée.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.